Le SA15 Magattitude. Toute l'actualité du SA15, le lundi, 18h30, avec Fred et Christian.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du SA15 Magattitude. Nous sommes ensemble pendant 25 minutes pour parler du SA15, seulement du SA15 et rien que du SA15, comme tous les lundis. Hein. Christian, bonsoir.
Bonsoir Fred.
Comment vas-tu ?
Froidement, mais très bien.
Effectivement, le froid est de retour. Ouais, on a pu le voir jeudi soir, notamment au Stade Chanzy. Mais écoute, si tu veux bien, on va lancer le sommaire.
Le SA15 Magattitude, le sommaire.
Au sommaire de l'émission ce soir, nous allons revenir sur la courte défaite, mais défaite tout de même, hein, du SA15 face à Oyonnax. Méritait-il mieux ? On va en parler dans un instant. Suivra les résultats des jeunes, puisqu'on a trois résultats à vous donner, hein, les à la Mercerie, les Crabos ainsi que les Espoirs joués. On va voir que ça n'a pas été la fête, hein, au SA15 ce week-end. Et en fin d'émission, on va parler du prochain match, hein, qui arrive pour le SA15, puisque ça enchaîne. C'est un bloc de 5 matchs et ce sera en déplacement à Biarritz, au stade Aguilera. On peut lancer tout de suite le débrief du match.
Le SA15 Magattitude, le débrief du match.
Christian, nous étions au stade Chanzy jeudi soir. C'était à 21h, c'était devant les caméras de Canal+. Le SA15 recevait Oyonnax, l'ogre Oyonnax. Puisque cette équipe de Oyonnax s'imposait partout, explosait tout le monde. Et on s'attendait à un match compliqué, Christian. Et malgré tout, le SA15 est bien rentré dans son match.
Oui, effectivement, c'était la deuxième affiche de suite après la réception d'Agen. Cette fois, c'était Oyo qui explosait tout le monde, qui est premier de la Pro D2, qui restait sur une série de 5 ou 6 victoires d'affilée. Donc c'était forcément un gros défi qui était proposé au SA15. Et au final, par rapport à la victoire contre Agen, on a vu le même scénario de match, c'est-à-dire une très bonne première mi-temps du SA15 qui a pris le commandement à la mi-temps, et malheureusement on a vu Oyonnax remonter en deuxième mi-temps, et malheureusement, contrairement à Agen, Oyonnax s'est imposé. Le début de match commence bien pour le SA15, hein, qui marque une pénalité au bout de 3 minutes de jeu par Emmanuel Sobus. On est à 3-0 à la 3e minute. Stark, on n'est pas dans Starsky et Hutch, on n'est pas non plus dans Game of Thrones avec la famille des Stark, hein, mais Stark marque son premier essai du match à la 7e minute, un essai qui n'est pas transformé, et c'est Oyonnax qui prend le commandement 5-3. Le temps passe et finalement le SA15 résiste bien, les violets ne prennent pas la marée au niveau du score, et c'est même eux qui vont terminer la mi-temps de manière admirable, puisque Pezenidze marque un essai après X temps de jeu, beaucoup de temps de jeu, et il conclut vraiment un bel essai collectif, transformé par Sobus. Donc le SA15 reprend l'avantage 10-5, et juste avant la mi-temps, Marvin Lestremo, qui sur une passe au pied de Hugald, permet au SA15 de marquer son deuxième essai du match, et à la mi-temps, un essai qui n'est pas transformé par Sobus, et à la mi-temps, c'est le SA15 qui mène 15-5.
Ouais, Christian, hein, une première mi-temps étonnante, hein, puisqu'on a vu un SA15 faire un petit peu le dos rond quand même en début de match. On voyait bien que cette équipe de Oyonnax était vraiment costaud. Le SA15 avait du mal à franchir la première ligne. Et puis, petit à petit, cette équipe de Oyonnax a fait de nombreuses fautes, faut bien l'avouer. La mêlée a été bonne du côté du SA15 également. Hein. C'est à noter, d'ailleurs, ça a été vrai à peu près tout le match. La mêlée a plutôt été un point positif. Le SA15 est revenu dans le match, mais on sentait quand même à la mi-temps que c'était plus parce qu'Oyonnax faisait des petites fautes et permettait au SA15 finalement de scorer sur leurs seules occasions, hein, quasiment, qu'une réelle domination du SA15. Et on va le voir en seconde période, le SA15 n'a pas existé.
Oui, parce que c'est vrai que Oyo, du coup, revient au vestiaire avec de meilleures intentions, et puis surtout, il marque très vite dans la deuxième mi-temps, puisqu'au bout de 3 minutes de jeu, Stark remet un essai qui n'est pas transformé. Le SA15 mène toujours 15-10, mais l'écart se réduit. Et finalement, c'est à l'heure de jeu que Oyo va passer devant grâce à un troisième essai personnel de l'ailier Stark à la 58e minute, transformé par Bourreau. Oyo passe devant et mène du coup 17-15. 77e minute, Bourreau met une pénalité pour Oyonnax, 20-15. Et là, du coup, on a peur vraiment bien que le scénario de Grenoble ou de Mont-de-Marsan se répète, savoir que le SA15 fait un très beau match mais ne repart sans aucun point. Et finalement, Oyo ne va plus marquer de points. C'est même le SA15 grâce à une belle percée en fin de match de Ayarza qui a été mis sur l'aile sur ce match-là. Ayarza, du coup, fait une belle percée et puis provoque plusieurs temps de jeu de la part du SA15. Et finalement, malheureusement, l'action ne va pas au bout. Et c'est Oyo qui gagne ce match 20-15.
Christian, un peu de frustration quand même, parce que quand on mène 15-5, forcément à la mi-temps, on espère au moins, pourquoi pas faire un match nul ou mais pas perdre quoi. On espère garder le score. Après, c'est vrai que quand on regarde la seconde période, on a vu que cette équipe de Yona mérite largement sa victoire finalement, parce que le SA15 a fait beaucoup de fautes. Notamment un en avant qui donne un carton jaune pour Ayarza, ça allait dans l'embute. Certes, il y a essai après, durant ces 10 minutes, Oyo mérite sa victoire. Quoi dire sur ce match de négatif finalement contre le SA15? Est-ce qu'on peut dire de négatif sur ce match?
Le SA15 a joué avec ses armes, après c'est vrai qu'Oyo ne joue pas le même championnat. Oyo espère monter en top 14. On a clairement vu en première mi-temps que ils avaient quelques approximations, et puis c'est une équipe quand même qui est supérieure au SA15. Je pense que c'est pas dénigrer le SA15 de le dire. Et puis quand ils ont remis un peu les choses en ordre, on a vu que cette équipe-là, elle avait quand même beaucoup de marge de progression par rapport à ce qu'elle avait montré en première mi-temps, et elle a su s'imposer. Mais le SA15 a su tenir cette équipe-là. Il n'y a pas eu de pôle 50-10. Hein, au contraire, il y a eu match jusqu'au bout. Et déjà, ça, on peut le mettre au crédit des Angoumoisins. Alors après, ce qu'on peut peut-être dire de négatif, c'est qu'au final, c'est un scénario qui se répète. Peut-être qu'Angoulême, face au très gros, et c'est très compliqué à réaliser, mais peut-être qu'Angoulême n'arrive pas à avoir la consistance sur 80 minutes de jeu. On l'a bien vu sur certaines rencontres, contre Grenoble notamment, même contre Agen, ils avaient gagné, mais honnêtement, Agen, en deuxième mi-temps, a dominé, ça a été des Angoumoisins héroïques sur leur ligne pour ne pas encaisser l'essai. On voit qu'il y a 40 minutes super bonnes avec le score, alors contre Grenoble, ça a été même 70 minutes où ils ont été devant. Contre Yo, ça a été 60 minutes, mais il manque c'est cette petite demi-heure pour résister au retour du groupe. Alors c'est un point de prix, c'est toujours un point important. Là, ça fait 5 points sur ce bloc, il manque 3 points en 2 journées à aller chercher contre Biarritz et contre Montauban, 2 fois à l'extérieur. Voilà, après ce qui est dommage et ce qui est regrettable, c'est que s'ils avaient gagné contre Yo avec 10 points à la mi-temps, on pouvait forcément espérer, même si c'est forcément, ça aurait été un exploit et ça aurait été compliqué de le maintenir. L'objectif de 8 points, il aurait déjà été réalisé après Oyo, donc il y aurait eu 2 déplacements entre guillemets avec que du positif à aller chercher à Biarritz et à Montauban. Là, sur les 2 matchs, il va falloir une victoire pour remplir l'objectif de points fixé par Vincent Etcheto.
Et ben justement, Vincent Etcheto, on va l'écouter puisqu'il était en conférence de presse après cette courte défaite.
Il y a le comportement des joueurs, il est bien, mais il y a en même temps, c'est paradoxal parce que c'est bien globalement, mais il y a des détails qui sont quasiment des fautes professionnelles. On prend le premier essai, on va dire, ça se joue à 2 cm, la décision de l'arbitre, surtout Mathieu, derrière il y a une touche, on prend un essai, mais la défense sur touche est pas bonne. Et ensuite, sur le deuxième essai où la Claya vient nous voler le ballon dans le regroupement, on respecte pas la règle, donc on est puni. Donc la défaite, elle est amère. Le comportement des joueurs, il est normal, il est bien. Mais on peut pas se contenter de ça. Et la frustration, je l'ai dit gentiment à l'arbitre aussi, c'est que il a été tatillon, il a arbitré la règle. Donc Mathieu, ça se joue à 2 cm sur la touche. Le Ruck, ça se joue parce qu'on n'est pas lié à l'épaule à quelques centimètres. Et sur les dernières actions, ils sont hors jeu de 10 à 15 cm. Ils sont devant les pieds, par rapport à la ligne de hors jeu. Ils sont au-delà de cette ligne de hors jeu. S'il y avait eu la VAR, qui est à la mode actuellement, ils auraient été pris. Donc on aurait eu une pénale touche à jouer à la dernière minute et on aurait pu gagner le match. Ça, c'est frustrant. Après, la deuxième mi-temps, elle n'est pas à la hauteur de la première. Donc on les a laissés revenir dans le match. Tant pis pour nous. Les joueurs, on ne doit pas se contenter de ça. Bien sûr qu'on va lutter pour le maintien, mais moi j'ai dit c'est des matchs pour passer le niveau au-dessus et respirer déjà au comptablement, se sortir un peu de cette zone qui est compliquée, cette zone de relégation, et surtout prendre confiance en nous. Donc on est retombé dans des travers, je crois qu'on a raté 25 plaquages, on est indiscipliné aussi, on prend encore les cartons. Faut que même contre des grosses équipes, on arrive à être plus solide, plus froid dans nos têtes, tout en étant plus efficace. Mais voilà, je leur ai dit, c'est pas un mauvais match. La vidéo de lundi, elle va être calme, c'est juste sur des détails. Et il nous reste 2 matchs, on s'était fixé un objectif de 8 points. On en a 5. Donc il y a 3 points à aller chercher sur 2 rencontres. c'est faisable.
Et ouais, Christian, Vincent Etcheto, déçu, qui parle même de faute professionnelle, déçu de cette seconde période. Il est vrai que le Sakin, ça va pas scorer du tout, hein, puisque ils finissent avec 15 points et il y avait 15 points à la mi-temps. Bon, c'est dommage de pas avoir au moins marqué 3 points, avoir pris peut-être un petit peu d'avance, mettre cette équipe de Yona un peu dans le doute. Je sais pas, il y avait peut-être un petit coup à faire. Après, directement, nous, on était au stade, hein, de ce qu'on a pu voir. Je pense que le SA15 était à son niveau. On a vu, en fait, finalement, ce qui manquait au SA15, c'est cette régularité, peut-être ce talent. Hein, il manque peut-être un peu de talent, peut-être un peu de banc aussi. Le banc de Yona, finalement, a donné un allant supplémentaire à cette équipe. Chose qui n'a pas été le cas pour le SA15. Alors, on parle de groupes relativement larges, etc. Mais bon, en termes de talent, je sais pas ce que t'en penses, Christian, mais cette équipe de Yona paraissait quand même individuellement supérieure au SA15.
Indéniablement. De toute façon, comme je le disais précédemment, hein, c'est deux équipes qui jouent deux championnats complètement différents. On va pas demander au SA15 de lutter pendant 30 journées avec Oyo. Après, voilà, sur un match, c'est ponctuellement possible. Moi, ce que je regrette surtout sur ce match, c'est d'avoir encaissé le deuxième essai de Oyo à la 43e minute. Je pense que s'ils avaient réussi à tenir plus longtemps en deuxième mi-temps, ils auraient mis le doute, parce que finalement, le temps joué en faveur du SA15. Et c'est vrai que d'encaisser un essai au bout de 3 minutes de jeu, eh bien, ça valide directement ce qui a été échangé à la mi-temps, et puis ça remet vraiment au Yonak sur des bons rails, et puis derrière ils sont impatients de réattaquer et de combler définitivement leur retard. Je pense que c'est le seul regret que le SA15 peut avoir, de ne pas avoir tenu plus longtemps en deuxième mi-temps, parce que si c'est vrai que s'ils atteignaient l'heure de jeu avec toujours ces 10 points d'avance, ça faisait beaucoup moins de temps pour Oyo. Il fallait qu'il marque plusieurs fois en plus, donc à minima deux fois, eh bien c'est vrai que ça aurait été plus compliqué. Donc j'ai jeté ce petit rejet. Après, ces matchs-là contre Grenoble, Mont-de-Marsan, Agen, Oyo, on voit que le SA15 a quand même réalisé des super matchs contre les gros. Ils sont rarement ratés. Bizarre part peut-être à Colomiers. Ça doit donner de la confiance pour les matchs plus à leur portée, comme Montauban, voire même Biarritz, pourquoi pas, on sait jamais. Ça doit leur donner de la confiance, dans le sens où ils se disent, on a tenu 70 minutes contre Grenoble, on a tenu pratiquement tout le match contre Oyo. Face à un adversaire qui est d'un calibre moins, on tient plus, on gagne, quoi. Donc je pense que c'est un match qui peut apporter de la confiance, mais bon, forcément, si on prend le nombre de points que le SA15 a perdu en étant en tête sur des matchs où on pensait qu'ils allaient prendre aucun point, ça laisse quand même des regrets, parce que Mont-de-Marsan, ils pouvaient prendre plus que 0 point, Paris et Grenoble, et ce soir il y a un point. Alors c'est déjà un point de prix, c'est plus que Grenoble et c'est plus que Mont-de-Marsan, mais je pense que s'ils avaient tenu plus longtemps en deuxième mi-temps, peut-être qu'un point aurait pu se transformer en 4 points avec qui avait été cherché, avec certes forcément un peu de réussite, mais aussi beaucoup d'abnégation et de courage.
Et effectivement, en plus, c'était le seul match à domicile de ce bloc de 5 matchs. Donc, il va falloir maintenant aller chercher des points à l'extérieur, hein, forcément. On en parlera en fin d'émission, on va voir si le coup est possible à Biarritz. Je vais vous donner les résultats de cette 13e journée, hein, puisque bien sûr, il y avait d'autres matchs qui se jouaient. Donc, jeudi avait lieu le match du SA15 face au Yona. On le rappelle, Oyonnax s'est imposé 20-15, bonus défensif donc pour le SA15. Aurillac recevait Colomiers, Aurillac s'est imposé 15-10. Rouen recevait Montauban et Rouen cartonne, hein, puisqu'il s'impose 41-23 face à Montauban. Provence Rugby s'impose 23-6 face à Carcassonne. Agen s'impose face à Massy 24-12. Victoire à l'extérieur de Mont-de-Marsan à Vannes 17-12. Nevers s'impose à domicile 23-19 face à Béziers. Et enfin, match nul entre Grenoble qui recevait Biarritz 13-13. Plutôt des bons résultats, hein, pour le SA15, puisque ses concurrents directs ont tous failli, on va dire. Au classement, on retrouve donc Oyona tranquillement en tête, même très largement en tête, hein, premier avec 49 points, deuxième Biarritz 37 points. Imaginez, il y a déjà 12 points d'avance pour Oyona. Troisième Grenoble 36 points, quatrième Agen 35 points, cinquième Vannes 34 points, sixième Mont-de-Marsan 32 points, Colomiers 7e 32 points, Rouen est 8e avec 31 points, 8e Provence Rugby 30 points, 10e Aurillac 29 points. Et là, il y a un petit trou qui s'est creusé entre le 10e et le 11e, 11e qui est Nevers avec 25 points, 12e le SA15 24 points, suit Béziers 13e, 23 points, Carcassonne 14e, 22 points, Montauban 15e avec 22 points, et désormais bon dernier, hein, Massy 16e avec 14 points. Point. Quand on regarde le classement, Christian, on se dit que le SA15 n'est pas largué, mais par contre, quand on voit ce qui reste à jouer, deux matchs à l'extérieur, deux points sur le premier relégable, eh bien, il va falloir aller chercher des points à l'extérieur, hein, qu'en penses-tu?
Bah oui, c'est vrai que si on part d'un scénario catastrophe, le SA15 pourrait se retrouver relégable à la trêve, hein, sans avoir forcément démérité. Hein. Ils ont fait, une phase d'aller. Bon, il reste encore deux matchs, mais pour l'instant, je pense qu'ils ont joué à leur valeur. Il y a peut-être des rosés par-ci par-là, d'avoir perdu... ces deux matchs à domicile qui étaient très importants, et puis de pas avoir grignoté certains points à l'extérieur qu'ils pouvaient. Ce que je remarque surtout dans cette lutte au maintien, c'est comme tu le disais, il y a un wagon d'équipes, bah, il y a six équipes, hein, pour deux places pour l'instant. Le SA15 est dans ce wagon, le SA15 n'est pas largué, contrairement à une équipe comme Massy. Et ce que je remarque aussi, c'est que une victoire, directement, on progresse de 3-4 places dans ce classement, hein. Nevers était relégable, ils sont passés 11e avec leur victoire. Donc voilà, ça veut dire que même si le SA15 était amené dans les semaines à venir, ce qu'on souhaite pas bien sûr, hein, mais s'ils étaient amenés à être dans la zone rouge, à être à cette fameuse 15e place, eh bien une victoire pourrait leur permettre d'en sortir directement. On voit que c'est accéléré. C'est vrai que devant, on voit que le premier c'est Oyonnax, qui a été l'adversaire d'Angoulême le week-end dernier, et on voit que le deuxième c'est Biarritz, le futur adversaire du SA15. Donc ça promet un déplacement compliqué à Biarritz, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, le SA15 12e pour l'instant est toujours au-dessus de la ligne de flottaison.
Eh bien écoute, on en a terminé avec la Pro D2. On va pouvoir passer tout de suite aux résultats des jeunes.
Le SA15 Magattitude. SA15 Magattitude. Le résultat des jeunes.
Eh oui, résultat des jeunes, on le rappelle. Le SA15, ce n'est pas seulement la Pro D2, mais c'est aussi un centre de formation et une école de rugby. Avaient lieu trois matchs chez les jeunes. Les Alamercieri et les Crabos se déplaçaient, c'était samedi. Ils se déplaçaient tous les deux dans le Cantal, à Aurillac. Et après un début de saison catastrophique, on va pas dire que c'est mieux parce qu'ils ont perdu, mais il y a quand même un petit peu de mieux. Ils finissent la première phase. Alors, les Alamercieri sur une défaite 29-5 et les Crabos 25-3. Donc, bon, on va dire que le score est moins large, mais enfin, ça reste très, très compliqué. Les Crabos qui, au match aller, s'étaient imposés d'ailleurs, hein, à domicile face à Aurillac, c'était leur seul match, ont malheureusement pas pu rééditer leur performance. Voilà, et les Mercerie, se sont à nouveau inclinés. La seconde partie du championnat sera plus simple, parce que, évidemment, ils ne joueront plus des équipes top niveau. Avait également lieu un match important, hein, c'était hier par contre, c'était les Espoirs qui se déplaçaient chez le leader incontesté, hein, Toulouse. Et les Espoirs ont très très bien débuté le match puisqu'ils ont même mené un instant, ont fait jeu égal. Et puis Toulouse a commencé à mettre la marche avant en fin de première mi-temps, si bien que le Stade Toulousain menait 26-13 à la mi-temps, et en seconde période, ça a été un cavalier seul, hein, du Stade Toulousain qui, au final, s'impose très largement, 54-20. Christian, rapidement, hein, pour les Espoirs, c'est très très compliqué, hein. Premier match, première victoire, depuis uniquement des défaites. Bon, là, on s'attendait quand même à un match compliqué au Stade Toulousain, et des Crabos à la Mercerie qui n'y arrivent toujours pas.
Oui, oui, par rapport aux Espoirs, c'est très bien d'avoir marqué 20 points à Toulouse. Je pense que peu d'équipes l'ont fait, et peu d'équipes le feront. Après, forcément, d'en prendre 52, c'est beaucoup moins bien, mais c'est un résultat qui est attendu. De toute façon, le maintien ne se jouera pas sur un déplacement à Toulouse. Voilà, c'est quand même 20 points de marqué, ça veut dire que ça peut produire offensivement. S'ils sont capables d'en marquer 20 contre Toulouse, ils peuvent en marquer 20 contre toutes les autres équipes, il n'y a pas de raison. Et puis par rapport aux deux autres équipes, les écarts se réduisent, donc c'est plutôt bon signe pour la deuxième phase.
Eh bien, écoute, on en a terminé avec les résultats des jeunes. On leur souhaite bien sûr, hein, le meilleur. On va croiser les doigts, évidemment, pour les Crabos à la Mercerie, ça va aller beaucoup mieux lors de cette seconde phase, hein, on n'en doute absolument pas. On croise les doigts aussi pour les Espoirs parce qu'à chaque fois ils étaient pas très loin quand même, hein, plusieurs fois, et je pense que cette équipe mérite de se maintenir. On verra si c'est possible durant la saison. On va pouvoir passer tout de suite au prochain match du SA15.
Le SA15 Magattitude, le prochain match.
Christian, il nous reste 4 minutes environ pour parler du prochain match. Un match qui va être forcément compliqué, hein, puisque le SA15 se déplace à Aguilera. une équipe de Biarritz qui descend de top 14, une équipe de Biarritz qui est bien classée. Peut-être pas du niveau de Oyonnax, mais enfin, en tout cas, elle reçoit le SA15, donc ça sera un match à l'extérieur. Pour toi, Christian, le SA15 a-t-il une chance? Et si oui, que doivent-ils mettre en place pour s'imposer à Biarritz?
Bah, j'engloberai les deux matchs qui restent à jouer sur cette année 2022, c'est-à-dire Biarritz et Montauban dans un même paquet. Il faut une victoire sur ces deux matchs. Alors du coup, est-ce que ce sera Biarritz, est-ce que ce sera Montauban, ou est-ce que ce sera nulle part? Ça, on le verra. En tout cas, le gros morceau arrive en premier pour le SA15, puisqu'ils reçoivent, ils vont à Biarritz, qui sur du coup, je crois que c'est 2 défaites et 5 victoires à domicile en 7 matchs. Enfin, ils ont fait vraiment un parcours à domicile presque impeccable, hein, presque sans faute. C'est le deuxième de la classe, ça va forcément être compliqué. Mais bon, le SA15 quand même possède quelques références à l'extérieur, hein, des matchs comme Mont-de-Marsan, comme Grenoble. C'est des matchs où ils ont vraiment été acteurs. Donc c'est un match aussi particulier pour Etcheto, puisqu'il est de Biarritz, il est de Bayonne, pardon. Donc du coup, forcément, je pense qu'il aura à cœur. Et puis, je pense que c'est un coach qui arrive à motiver ses joueurs dans les causeries, et je pense qu'il a une très bonne qualité pour ça. Je pense qu'il va motiver ses garçons à fond pour ce match. Je pense que si le SA15 arrive à tenir le score, le temps va forcément jouer en faveur du SA15. Donc voilà, pour moi le début de match sera déterminant, la première demi-heure. Si la première demi-heure le SA15 est encore en contact, eh bien il y aura match. Donc à voir un peu ce qu'ils feront. On a une équipe de Biarritz quand même qui encaisse relativement beaucoup de points à l'extérieur, hein. Ils ont encaissé 31 points contre Colomiers, et ils en ont pris 32 à Mont-de-Marsan, ils ont gagné 46-32, c'est un sacré match. Ils en ont pris 23 contre Carcassonne, ils en ont pris 29 contre Mont-de-Marsan. Donc c'est quand même une équipe de Biarritz où il y a la place pour marquer des essais. Donc voilà, si le SA15 arrive à se la jouer offensivement, il peut y avoir un match.
Moi, ce que j'ai pu voir aussi de Yona, et chose qu'on peut voir notamment avec l'équipe de France, là, qui est parfois décriée, mais c'est que cette équipe de Yona, dès que le ballon est dans son camp, la plupart du temps, hein, j'irais à moins, allez, dans leurs 35 mètres, 22 mètres et autres, ne se pose pas de questions et renvoie systématiquement le ballon chez l'adversaire, c'est-à-dire occupe le camp adverse à chaque fois. J'ai pas vu une seule relance de Yona dans ses 35-40 mètres. À chaque fois, ça a été du jeu au pied pour amener le ballon. Est-ce que c'est pas finalement la meilleure tactique de jeu à mettre en place, notamment quand on se déplace?
C'est sûr qu'après, de toute façon, il faut jouer en concordance, c'est-à-dire un gain de terrain, oui, mais après il faut avoir le pressing qui va avec, hein. Si on presse pas l'adversaire et si on lui permet de remonter tranquillement le ballon, ça c'est une tactique qu'ils ont, parce qu'ils ont aussi un gros pressing, et effectivement ils poussent l'adversaire à la faute, et donc ça se transforme en grosse qualité pour eux.
Ouais, et le SA15 n'est-il pas trop joueur finalement? Est-ce qu'il s'expose pas parfois à des essais un peu casquettes comme on a pu le voir là, parce que ils veulent trop jouer, ils veulent trop relancer depuis leur 22, hein, souvent même on peut voir ces phases de jeu qui parfois mettent l'équipe un petit peu en danger, hein. Est-ce que finalement jouer un petit peu plus au pied serait pas comptablement plus efficace, notamment on voit quand même que Sobu c'est un bon jeu au pied, il y a Ugalde aussi.
Ouais,
on voit beaucoup à la main. Je sais pas ce que
on voit quand
penses.
Même Ugalde pas mal jouer au pied, on voit aussi Lafitte faire des relances au pied parfois. Je pense que par rapport, il y a forcément des consignes qui sont données par le staff, mais c'est aussi aux joueurs, hein, de voir s'il y a l'ouverture, pourquoi pas de jouer au pied, ou si la défense n'est pas vraiment remontée, jouer à la main. Peut-être qu'en Pro D2 ça remonte moins vite les défenses aussi qu'en Top 14 ou qu'en match international. On est plus habitué aussi à avoir des matchs de l'équipe de France. Peut-être qu'en Pro D2 les défenses finalement elles remontent moins vite, ce qui permet vraiment aux relanceurs de relancer finalement avec la main et peut-être moins au pied. Après, je pense que c'est aussi l'état des terrains qui va un peu forcer la main au SA15 par rapport à ce point de vue-là. Il va faire froid, il y aura sûrement de la pluie, les terrains sont forcément moins bons, donc les appuis au pied seront moins bons, les passes seront un peu compliquées à réceptionner, donc il y aura forcément plus de jeux au pied, je pense, par rapport à ces conditions de météo qui vont évoluer, même s'il faisait relativement bon contre Oyo jeudi soir encore.
Bon, et puis pour finir, évidemment, cette équipe de Biarritz, on va un petit peu la découvrir face au SA15, puisqu'on les a pas joués encore cette année. Cette victoire de nul, 4 défaites, donc on peut dire que c'est jouable, hein. Forcément, ils ont déjà perdu, ils connaissent la défaite. Donc pourquoi pas, un petit prono pour ce match, Christian?
J'ai envie de donner un score assez gros, un petit 25 à 22 ou un truc comme ça pour Biarritz, donc un petit point pris pour le SA15, un petit point pour le SA15, mais un grand pas vers le maintien si on reprend une formule spatiale. Bon, ouais, je verrais bien un score assez élevé, un 25-22, un 30-27. Je vois pas mal de points dans ce match-là.
D'accord. Bah écoute, moi, je vais compter en fait sur. Je vais me dire que voilà, le SA15 avait eu sa première victoire à l'extérieur à Biarritz lors de son retour en Pro D2 grâce au pied de Jean Ric. Et je veux voir bah, finalement un signe du destin et me dire que bah, le SA15 va. Allez, presque sauver sa place en Pro D2 grâce à cette victoire qu'ils vont obtenir vendredi à Biarritz grâce au pied de Sobus, Botica, je ne sais pas qui, mais qui donnera la pénalité de la gagne. Voilà. Ce qui va permettre au SA15 de se relancer, pourquoi pas faire un coup même après, le match d'après à Montauban aussi, et se relancer dans cette Pro D2. En tout cas, je croise les doigts pour que mon prono soit le bon. On en a terminé avec cette édition. On vous souhaite une très bonne semaine, un très bon match vendredi. Pour ceux qui regardent la Coupe du Monde, bah, on croise les doigts, hein, que ce soit pour l'équipe de Suisse d'ailleurs qui joue bientôt, hein, Christian, mais aussi pour celle, tout à fait, mais aussi pour celle de l'équipe de France, bien sûr. Salut à tous et à bientôt.
Réagissez à l'émission sur Facebook, le SA15 Magattitude. Le SA15 Magattitude. Toute l'actualité du SA15, le lundi 18h30 avec Fred et Christian.